lancer, et pour l'arrêter, il faut que tu appuies ici, sur le troisième, sur celui-là.
Une fois,
tu dois voir que ça change la vitesse, et ensuite tu peux l'arrêter complètement en appuyant 2 secondes. Donc tu peux 3 secondes là-dessus, puisque ça s'arrête. Tu appuies le même bouton. Ça va, merci.
Vous faites ces exposés dans des lieux... Non, pas encore. Il faut être sûr de soi.
On a des exposés.
Parce que j'ai des amis qui m'ont fait leur part. Enfin, j'ai...
Pour cette troisième exposition.
Ah oui,
c'est clair, tu l'as proposé.
Même au fond de la
salle. Même sans ce soit des. Et comment quand je raconte
Je crois que c'est. Non, c'est qu'il faut. Il faut qu'un tiroir, c'est un tiroir. Si on ouvre un autre tiroir, on ouvre un tiroir. Vous allez faire communiquer deux tiroirs. Je veux dire, c'est tout.
Parmi anglais, vous savez.
Alors, la nuit, là, qui va faire.
C'est
un endroit qu'on va faire. Évidemment, à partir du moment où je dis que le biocentrisme n'a rien à voir avec le biocentrisme, ni le croyant, les gens qui m'apportent ils croient que la pensée est une forme d'évolution.
C'est ça. C'est ce que j'ai reproché au livre de mon cher frère. Et puis il y a une démarche de poser.
On va l'utiliser comme ça en premier, mais c'est pas
c'est que cette démarche de commencer par la sensibilité, c'est exactement la démarche. Qui a reçu le baramide, qui a percé donc il y a plein de gens qui étaient passés pour le cerveau. Et elle,
en fait, au début, c'est
écouter.
Écouter,
c'est... Et qui lui a lésé les deux cerveaux.
Au début, j'ai eu le cerveau. Ou alors, les
fois, on a eu le cerveau.
Elle, 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 elle,
elle, elle, elle, elle, elle,
elle, elle, elle, elle, elle,
elle, elle, elle, elle, elle, mais plus jamais de sa vie, il n'a pu toucher à son pied parce qu'il avait perdu.
Oui, 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 donc ça, on ne reconnaît pas.
Il était devenu grossier, il avait tout le avec ses serviteurs contrôlés. Et il était ensuite incapable de faire un projet sur sa vie. Alors qu'il avait le même suivi auparavant, il était incapable de faire des projets. On tenait compte de son avenir. Et Damasio en début, après avoir fait des études aujourd'hui avec les chercheurs, ce qui avait aidé, et plus il a trouvé des gens, des humeurs, etc. Et il en début, se dit que tout part de l'émotion. C'est l'émotion qui, dans le cerveau, devient sentiment, qu'elle soit conscient ou inconscient. C'est à partir de là que se construit.
Oui,
c'est
le
même.
Non.
C'est que l'âme, c'est ça.
Excusez-moi d'avoir coupé votre élan, parce que je sais que c'est pas grave quand on vient de manger, mais là, c'est pour moi, c'est
bien. Tout à fait,
Le problème, c'est que quand un institution
les gens se sont dit, ah oui, je me suis dit peut-être, mais ce qui est pas un café, c'est
une maladie. Ah oui, c'est pas un
Thank you.
Bon. Alors, je vais solliciter à nouveau votre attention pour la, cette fois-ci la dernière partie de mon intervention. Alors, spécifiquement sur le biocentrisme et l'écologie radicale et son rapport à l'animal. Alors aujourd'hui, tant au niveau de la conscience individuelle qu'au niveau de la conscience collective, c'est une expression que j'ai trouvée dans un texte, mais que je trouve très appropriée, conscience collective ou cerveau de masse. Nul ne peut nier l'émergence d'une pensée écologique. Nul ne peut nier l'essor, aujourd'hui, de mouvements écologiques au niveau de la planète. Mais pour beaucoup, disons pour la très grande majorité d'entre eux, de ces mouvements écologiques, l'écologie n'est que la gestion prudente des ressources naturelles au seul bénéfice de l'homme. Ces écologistes justifient la sauvegarde de la nature et de leur environnement par des considérations strictement égoïstes, strictement humanistes. Pour ces gens-là, une plante, un animal n'ont de valeur que s'ils peuvent être utiles. Pour d'autres, encore très minoritaires, l'écologie fournit un cadre conceptuel innovant. Autrement dit, une idéologie de relève, une structure capable de se substituer à l'humanisme. Ces personnes, les seules vraiment écologistes, selon mon souhait, veulent la protection de toute la communauté du vivant. Communauté humaine et non humaine du vivant. Cette communauté du vivant trouvant sa valeur en elle-même. Nul ne peut nier cette constante différence depuis les débuts de l'écologie politique. Nul ne peut nier ce clivage irréductible qui sépare les deux branches originelles de l'écologie. Donc, la notion même d'écologie semble être promue par deux tendances, deux orientations. L'une qui serait une dérive de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'humanisme intégrerait la défense de la nature et de la condition animale, ce que j'ai développé tout à l'heure, mais pour son seul bénéfice. Ce serait une écologie, en somme, anthropocentriste. Et la deuxième tendance, qui serait la tendance émergente, hein, à partir du biocentrisme, l'écologie radicale biocentrisme. Deux grandes tendances. Alors, si, dans un premier temps, la branche anthropo-humaniste, que l'on peut qualifier d'utilitariste, a obtenu quelques succès électoralement parlant, elle semble aujourd'hui stagner, son élan stoppé. Moi, je pense qu'elle a atteint ses limites, hein, que ce soit chez les grunes
allemands, que ce soit chez les Verts français, que l'on voit d'ailleurs plus ou moins se diviser entre les deux tendances. Par contre, la branche bilocentriste, actuellement ultra-minoritaire, paraît, idéologiquement parlant, pérennisée et en pleine expansion dans les mentalités. Des associations nombreuses, généreuses et semble-t-il sincères et de bonne volonté essayent, souhaitent réunir les uns et les autres. Noël Mamère lui-même, on ne le présente pas, propose la réconciliation sous la tutelle d'un nouvel humanisme. Il écrit dans un texte signé en 2002 pour les journées d'été des Verts. Ça devait être à La Rochelle, je crois, en 2002. Je le cite. « L'écologie politique ne peut plus se contenter de s'arc-bouter sur la défense de la nature en tant que telle, mais doit générer un nouvel humanisme qui dépasse à la fois le biocentrisme et l'anthropocentrisme. » Cette démarche n'a pas été couronnée de succès. Car, et c'est ce qui me semble très 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 important, ce ne sont pas des querelles de petits chefs qui nous séparent, mais une vision du monde. Les écologismes utilitaristes, tous plus ou moins inféodés aux idéologies dogmatiques et humanistes, continuent à bricoler un modèle dont les fondements sont aujourd'hui disparus ou erronés. Si vous voulez, ils sont comme ces personnages de dessins animés qui continuent de batailler sans s'apercevoir qu'ils sont au-dessus du vide. Chaque vision du monde est générée par un mode de pensée différent. Il existe actuellement, on l'a vu, deux modes de pensée dominants. Le théocentrisme qui regroupe les trois grandes religions monothéistes et l'anthropocentrisme qui a généré l'humanisme. Chacun de ces deux modes de pensée revendique la vertu d'universalité pour lui tout seul. Quand on donne à une idée un statut d'évidence, on ne s'interroge plus sur sa validité. Que l'on soit croyant ou humaniste, on affirme donc comme une évidence qu'il n'y a rien d'autre de pensable. L'objet de mon intervention est d'affirmer que non seulement il y a autre chose de pensable, mais que cette autre chose, autrement dit le biocentrisme, est un mode de pensée irréductible, irrépressible, irréversible. Le terme biocentrisme ne figure pas encore dans les dictionnaires. Enfin, j'ai regardé dans les dictionnaires 2004-2005. Mais le terme agrobiologie non plus. Par contre, le dictionnaire Le Petit Larousse illustré 2004-2005 recense plus de 70 mots au sujet autour du radical bio. Plus de 70 mots. Donc ça commence quand même on ne peut douter de l'importance de cette notion. D'après une définition trouvée sur Internet, il serait biocentriste, il serait une théorie morale affirmant que tout être vivant mérite le respect moral. Le biocentrisme constituerait une réaction à la fois contre l'anthropocentrisme qui fait de l'être humain le centre du monde et contre le zoocentrisme qui accorde aux animaux des droits moraux équivalents à ceux des hommes. Ainsi, pour eux, le biocentrisme s'inscrirait toujours dans le cadre du dualisme, c'est-à-dire de la pensée linéaire. Quand il privilégierait l'analyse des éléments du système, il est qualifié d'atomiste. Peut-être qu'il y en a certains qui... Quand il privilégie l'ensemble du système, il est dit holiste. Bon. Mais c'est regarder les choses par le gros bout de la lorgnette. le biocentrisme que je tente de vous présenter est un mode de pensée global, comparable à part entière au théocentrisme et à l'anthropocentrisme. La majorité des associations de défense et de protection de la condition animale ne souhaitent souvent qu'améliorer leur sort. À titre d'exemple, la Société protectrice des animaux, la SPA, alors, toutes mes citations sont extraites, bien sûr, de leur programme, de leur charte, hein, ou de leurs objectifs. La Société protectrice des animaux, SPA, a pour devise « Sauver, protéger, aimer ». Elle se donne pour objectif de protéger la vie animale et son environnement, de lutter contre la souffrance, de refuser de traiter l'animal comme un objet de consommation et de demander au pouvoir public de légiférer. Le Comité de vigilance et d'action pour le bien-être animal, connu sous le sigle CVA, propose d'énoncer que ce qui crée le droit à ne pas être maltraité, torturé, bafoué dans ses besoins essentiels est, pour l'homme comme pour les autres espèces, la capacité d'éprouver le principe de plaisir-déplaisir. One Voice s'inscrit dans l'unité de combat pour les droits des humains, les droits des animaux et le droit à l'environnement. L'Association nationale pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS, œuvre pour la protection de la faune sauvage, pour la préservation du patrimoine naturel et pour la défense des droits des usagers de la nature. La Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et en particulier la flore et la faune qui y sont associées. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive. On remarquera l'importance des termes « protéger », « protection », « préserver ». Aucune de ces associations n'agit ou ne réagit au titre d'une pensée globale, mais de façon ponctuelle et spécifique. Avec le biocentrisme, la pensée gagne une dimension nouvelle, une manière profondément différente de penser, une façon profondément différente de concevoir la réalité elle-même. Nous assistons à une nouvelle culture du réel, essentiellement à partir de trois concepts, le concept d'interactivité, que je vous avais indiqué tout à l'heure, la notion de référentiel, et surtout celle du média, support de communication, qui ne doit rien à l'écrit, rien à l'oral. Nous devons nous préparer à intégrer un monde totalement inconnu. Ce sont les modes de pensée qui structurent notre univers objectif, notre univers du réel, notre univers du vivant. C'est en ce sens que l'on peut parler d'univers cyclique, d'univers linéaire religieux ou humaniste, d'univers biologique ou écologique. Le plus stupéfiant, c'est qu'il n'y ait pas, selon moi, un univers support qui serait tantôt cyclique, tantôt linéaire et tantôt biologique. Un univers support comme une bicyclette, par exemple, que l'on pourrait peindre un jour en bleu, le lendemain en rouge et le surlendemain en vert. Chaque mode de pensée structure un univers qui n'existe que dans cette structure. Le mode de pensée théocentrique structure un univers religieux qui n'existe que dans le cadre de la pensée théocentrique. Le mode de pensée anthropocentrique structure un univers humaniste qui n'existe que dans le cadre de la pensée anthropocentrique. À son tour, le mode de pensée biocentriste structure un univers écologiste qui ne peut exister que dans le cadre de la pensée biocentrique. Il en est de même pour les vérités et les réalités. Il existe des vérités révélées ou religieuses et des vérités scientifiques ou humanistes. De même, il existe des vérités biologiques ou écologiques. Ainsi, les religions, l'humanisme et l'écologie ont leur propre vérité et leur propre réalité. Ce que Dieu est à la religion, ce que l'homme est à l'humanisme, le vivant, lui, l'est à l'écologie. À la question « Croyez-vous en Dieu ?», je ne saurais, en tant que biocentriste, répondre par oui ou par non. Je répondrais par exemple « La religion est une structure de pensée qui n'est pas la mienne. » En effet, la question posée n'a de sens que pour un juif, un chrétien ou un musulman. À la question « Croyez-vous en l'homme ? Croyez-vous aux sciences exactes ?» Je ne saurais, en tant que biocentriste, répondre par oui ou par non. Je répondrais par exemple « L'humanisme est une structure de pensée qui n'est pas la mienne. » En effet, la question posée n'a de sens que pour un humaniste. Si personnellement je pose la question, pensez-vous que le vivant soit la primauté des primautés? La question n'a de sens que pour une personne écologiste. Nos habitudes actuelles de pensée sont toutes axées sur le pouvoir d'une théorie qui construit le réel à partir de dogmes, de postulats, d'axiomes, de principes premiers. Les scientifiques et les philosophes actuels ont été sélectionnés pour leur capacité à repérer les seules solutions bonnes à penser. Je vais vous citer une petite histoire. La nuit, au pied d'un lampadaire, un homme recherche visiblement quelque chose. Un passant s'approche et se propose de l'aider. « Que cherchez-vous ? » dit le passant. « Je cherche mes lunettes que j'ai égarées, » dit l'homme. Au bout d'un certain temps de recherche infructueux, le passant demande à l'homme « Mais êtes-vous sûr que ce soit là que vous les ayez perdues ?»« Non, » répond l'homme, « mais ce n'est que là qu'il y a de la lumière. » Eh bien, je crois que nos philosophes et nos scientifiques sont tous à l'image de cet homme qui ne recherche la vérité, qui ne recherche la réalité que dans le cadre des lumières dont on les a éclairées. Attention, danger à toutes celles et à tous ceux qui oseraient franchir la frontière, franchir le mur ou la muraille. Non, nous n'avons rien à attendre des philosophes et des scientifiques actuels. Alors pour terminer, je vais vous citer quelques référentiels issus du biocentrisme que certainement beaucoup parmi vous connaissent déjà. Premier référentiel, le bien-être et l'épanouissement de la vie humaine et non humaine sont des valeurs en soi. Ces valeurs sont indépendantes des considérations utilitaristes que l'homme peut porter sur le monde non humain. Second référentiel, la richesse et la diversité des formes de vie concourent à la réalisation de ces valeurs et sont aussi des valeurs en elles-mêmes. Troisième référentiel, l'être humain n'a pas le droit de réduire cette richesse et cette diversité. Quatrième référentiel, l'épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une diminution significative de la population humaine. L'épanouissement de la vie non humaine exige une telle diminution. Cinquième référentiel, de nos jours, les interventions de l'homme dans le monde non humain sont excessives et la situation se dégrade très, très, très rapidement. Comme on le voit au travers de ces cinq référentiels, le nouveau rapport à l'animal fait partie intégrante du biocentrisme, sans en représenter la totalité, bien entendu. Ce n'est que par le biocentrisme et son développement que ce nouveau rapport à l'animal pourra être affirmé et pérennisé. Pas toujours, c'est une conviction personnelle, évidemment. À chacune et à chacun d'entre nous, d'être l'actrice et l'acteur de ce développement. À chacune et à chacun d'entre nous, d'être l'actrice et l'acteur de la pérennisation de ce nouveau rapport à l'animal. Les temps historiques avaient succédé aux temps préhistoriques. Au cours de l'évolution, viennent toujours des temps où l'humanité se voit contrainte de passer à un niveau de conscience supérieur. Je crois que nous en sommes à ce stade-là de l'évolution de la pensée. Je vous remercie si vous avez des questions.
Tout le monde et qu'ensuite il pose et qu'éventuellement si les personnes en veulent la nécessité. Si là je ne sais pas, parce que comme du coup l'exposé a duré le temps de ce qui était prévu, je vais rentrer dans la pause. Je ne sais pas. On peut essayer de faire par exemple un débat là en une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis ensuite on voit on fait une pause. Puis on voit ensuite. Sinon, il y a une question pratique. Je crois qu'il y a personne qui s'inscrit pour préparer la lecture pour ce midi. Et là.
Il y avait ça, c'est le cas. Mais c'est le midi. Et nous, je crois qu'il est avec toi.
On peut bien nous inscrire sur la scène.
Et puis, il faut pas oublier de nous inscrire sur la feuille là-bas.
Elle est où après ?
Juste à l'entrée, là, sur le.
Ah, d'accord.
Et... Par contre, pour la bouffe, excuse-moi, il n'y a personne ce soir.
Il n'y a personne demain.
Si ce soir, c'est fait.
Bon, c'est pour la nourriture ce midi que c'est le plus urgent.
Ouais.
C'est Nicolas qui propose, mais Nicolas est arrivé hier.
Oui, on
pas
lieu.
Ce qu'il y a, c'est qu'il est midi. Et que ça va imposer si, de ne pas participer trop à la suite du débat.
Oui, je suis accompagné.
D'accord,
je suis accompagné.
d'avoir une sorte de table des lois, non pas que je ne sois pas en accord avec une partie des idées, mais j'ai l'impression que ça ne repart pas du tout des mêmes sources. Je trouve assez étrange. Il y a des moments où je ne sais pas si je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, ou si j'ai perçu des contradictions d'approche à certains moments du discours. Parce que, par exemple, il y a un moment où j'ai cru comprendre que vous disiez qu'il y avait d'un côté la croyance religieuse, la foi quelque part, de l'autre côté l'humanisme, l'utilitarisme, et que l'un comme l'autre aboutissait à ce qu'il pensait être une pensée universelle. Enfin, en gros, qu'il y avait deux dogmes de la vérité, que vous en proposiez un troisième révolutionnaire qui reprend un peu tout, mais je n'ai pas bien compris exactement les sources non plus. Enfin, ça m'a paru un petit peu confus, parce que moi, je voyais quand même une distinction entre la pensée d'ordre philosophique ou politique ou scientifique, qui justement doit être réfutable pour être acceptable. On doit pouvoir la contester, on doit pouvoir la discuter, et l'ordre de la foi, qui est quelque chose de révélé et qui est incontestable. Je ne mets pas de valeur sur les choses, je n'ai pas envie de jouer que ce soit, et c'est pas ça qui est important, mais je voyais vraiment quand même des univers assez différents. Et j'ai peur que Dieu centriste, en voulant avoir les avantages des deux, finisse par avoir les désavantages des deux. C'est-à-dire d'être à la fois irréfutable et en même temps pas révélé, quoi. Enfin, je sais pas.
Je réponds là. Oui, je crois que vous avez raison, parce que en une heure ou même un peu plus d'une heure, c'est vrai qu'on ne peut pas se donner de multiples objectifs. Hein. Si vous voulez, le seul objectif que je m'étais fixé ce matin, qui me paraît primordial, ainsi qu'à M. Charlois, c'est que il n'y a pas d'obligation de la pensée. Que la pensée doit être un espace infini de liberté. Et que dans cet espace infini de liberté, qu'il y ait eu, même sans chronologie, mais si vous voulez, des modes de pensée, c'est-à-dire des gens qui ont construit leur jugement et leur comportement, ces jugements et comportements, ils les ont inscrits dans un mode de pensée. Ils l'inscrivent soit dans le mode religieux, soit dans le mode de l'humanisme, et je crois percevoir actuellement qu'un certain nombre de personnes, peut-être comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans savoir, mais s'inscrivent dans un autre mode de pensée. Alors, on peut qualifier de biocentriste, le terme biocentrisme existe, pourquoi ne pas l'employer ? Bon, c'est ce que j'essaye de façon plus ample de raconter, hein, dans le petit livre que j'ai fait circuler sur les temps biologiques, si vous voulez. Pour moi, la perception que j'ai de l'évolution de la pensée, c'est qu'il y a eu des temps préhistoriques qui sont nettement définis de façon consensuelle, qu'il y a des temps historiques dans lesquels s'inscrivent théocentrisme et anthropocentrisme, avec leur vérité et leur réalité, et que apparaissent, émergent des temps biologiques. Hein. Mais on en est vraiment, si vous voulez, le mot biologie a été créé par Jean-Baptiste Lamarck, le naturaliste français, en 1800. Autrement dit, un mode de pensée comme le théocentrisme, si on fait remonter ça, le monothéisme, à Akhenaton, c'est 1300 ans avant le Christ. Enfin, le monothéisme aurait plus de 3 millénaires et demi. Bon, l'humanisme, on peut le faire remonter à Copernic, à Galilée, là, au moment où, de la révolution de la Terre et du Soleil. Je pense que c'est là où l'homme, le premier, a déterminé quelle devait être Les rotations n'étaient plus divines, hein, elles étaient le produit de la réflexion de l'homme. On le fait démarrer, si vous voulez, il y a 5 siècles, cet humanisme. Bon, pour moi, le biologique ou le biocentrisme commence à peu près dans les années au 19e siècle. C'est là que l'on voit Alors, ce dont je n'ai pas parlé, c'est parce que les fondamentaux, par exemple, du Lumière, du théocentrisme et de l'anthropocentrisme, qui sont agriculture, écriture, patriarcat, actuellement, je pense que c'est un consensus, là, s'effondrent, au moins dans nos pays occidentaux. Quand on voit qu'il y a quelques décennies, il y avait encore 1 million d'exploitations agricoles et qu'elles ne sont aujourd'hui qu'aux environs de 450 000, c'est-à-dire que par an disparaissent 25 à 26 000 exploitations agricoles en France. C'est-à-dire une toutes les 20 minutes. Cette agriculture qui soutenait ces deux modes de pensée, elle ne soutient plus rien. Donc il y a implosion, il y a effondrement. Parallèlement, semble émerger un nouvel... Bon, moi, je suis passionné par ça, si vous voulez. Hein, donc, j'ai tendance à enfoncer le clou avec un marteau. Bien sûr, tout est à prendre avec beaucoup plus de nuances.
Moi, c'est simplement cette notion de biocentrisme, elle reste toujours très floue pour moi, ça va être exposé. Et une chose, par exemple, qui m'est revenue sans cesse comme interrogation, c'est qu'à plusieurs reprises, vous faites référence à la capacité de partager le bien-être et la souffrance comme une sorte de base, de quelque chose qui fonderait en fait, ça serait une référence du biocentrisme. Et ensuite, vous parlez du vivant. Et quand vous parlez du vivant sensible ou du vivant en général? Et vous pensez que le vivant en général éprouve le bien-être et la souffrance? Ou en fait, du coup, j'ai pas compris en fait. Ou il y a une sorte de confusion ou pas? Ou c'est une vision particulière des choses?
Je pense que le biocentrisme repose sur trois fondamentaux, qui est l'interactivité. Hein, on parle de plus en plus d'interaction, d'ailleurs, hein, ça c'est évident. Le vivant n'a plus une causalité, ce que j'appellerais une causalité linéaire, c'est-à-dire un créateur qui crée le vivant. Le vivant serait la résultante de processus interactifs, la résultante d'un très grand nombre d'interactions. Deuxième concept pour le biocentrisme, le référentiel. Le référentiel est un concept qui a par nature la possibilité d'être révisé, si vous voulez. Hein. Bon, par exemple, on a cru que la perspective à l'origine était une perspective circulaire. Et puis, à partir de Brunelleschi, c'est-à-dire vers 1400, 15e siècle aussi, Brunelleschi, lui, dit non. La perspective n'est pas circulaire, la perspective est linéaire. Donc il vient conforter, en somme, un mode de pensée. Et cette perspective linéaire a pris un essor considérablement. Si bien qu'il m'est arrivé dans des réunions comme ça à parler aux gens que la création, la perspective linéaire est une invention de l'homme. Et bien non, ça existe dans la réalité. Donc c'est en ce sens que je veux dire que chaque mode de pensée a ses propres réalités, ses propres vérités. Et le troisième fondamental du biocentrisme, c'est effectivement le média. Je pense que personne ne pourrait évoquer le biocentrisme sans évoquer le média. C'est un effet de synergie. Hein. Alors, l'interactivité nous conduit à nous poser, nous, on se croyait unique, si vous voulez, dans notre corps. Hein, on était sur un piédestal et on croyait qu'on était... Et non, en fait, Pierre Sonigo, par exemple, dans ses livres, est un biologiste de l'hôpital Cochin à Paris, spécialiste du virus du sida, explique, à mon avis, très 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 bien que nous sommes des milliards et des milliards de cellules qui se reproduisent, qui se spécialisent de façon curieuse et encore tout à fait mystérieuse pour devenir une cellule du foie, une cellule du cœur, une cellule de l'esprit, mais qu'il n'y a pas de limite à notre corps. C'est la transpiration, c'est la... Je veux dire, nous sommes des milliards de cellules qui nous véhiculons, quoi. On n'a pas forcément, prétend Sonigo, une entité qui serait... la vertu suprême ou le principe suprême de l'interaction. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment d'interactivité, notre structure n'est pas différente de celle du vivant. Maintenant, la notion de sensibilité, bon, effectivement, sera à définir. D'après ce que j'ai lu, entendu et vu, c'est vrai que les trois notions de plaisir-déplaisir, et reprises, que d'être vivant sensible est une expression aussi qui est reprise. J'ai vu aussi des expressions comme système nerveux, donc animal, système nerveux. Il y a le nom m'échappe, Boris Cyrulnik, qui a une définition, à mon avis, très, très ouverte. Il dit que l'être humain est un animal, mais que dans ce monde du vivant, il occupe une place humaine. Bon, je trouvais ça assez beau, si vous voulez. Hein. Mais bon. Alors, si vous voulez, ce biocentrisme, c'est un mode de pensée. Tous les modes de pensée vont créer des mythes. Hein. Je pense que le combat emblématique que la CVN se propose d'abolition de la chasse, de la corrida et de la vivisection, ça veut dire introduire de nouveaux rapports entre l'être humain et le monde animal. C'est ça, c'est pas dire oh, on en veut aux chasseurs, on va les empêcher de chasser. Non, non, c'est de dire aux gens attention, nous approchons d'un nouveau rapport à l'animal. Et si nous proposons l'abolition de la chasse, c'est pas par vengeance, c'est pas par une réaction à une cruauté, non, c'est au nom d'un concept supérieur, hein, qui est celui de l'interaction, que nous ne sommes pas différents foncièrement du monde vivant. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Bon.
Oui, moi je vois un problème, si vous voulez, parce que je pense que les temps que vous avez définis, en particulier le temps préhistorique, représente plus de 1000 fois le temps historique. C'est-à-dire que nos ancêtres, depuis 3 millions d'années, ont évolué et nous avons hérité de leur cerveau. Et depuis un certain temps, la neurobiologie ne s'intéresse plus seulement au cerveau comme un objet donné, mais comme le résultat d'une très longue évolution. 1000 fois plus longtemps, je crois que pour s'en rendre compte, il faut prendre conscience de ce qu'est le langage par rapport à l'écriture. Le langage existe depuis peut-être 2, peut-être 3 millions d'années entre les êtres humains. C'était un avantage évolutif dans une tribu que de reconnaître, que de communiquer avec ses semblables, alors que l'écriture n'existe que depuis, disons, pas 1000 ans, mais 1000 ans pour nos semblables, puisqu'elle était réservée aux scribes, elle ne s'est popularisée que beaucoup plus tard, et on voit bien la différence entre le langage et l'écriture dans notre système du cerveau, par le fait qu'un enfant, entre 1 et 3 ans, apprend à parler très rapidement et il apprend le langage de ceux qui l'élèvent, peut-être même le langage de la communauté dans laquelle il vit, puisqu'on voit bien que les enfants d'immigrés n'apprennent pas la langue de leurs parents, ils apprennent la langue des enfants avec lesquels ils vivent. Tandis que l'écriture s'apprend et la lecture beaucoup plus difficilement et un peu plus tard. Donc je crois qu'il y a tout un montage neurologique et que la croyance est un de ces facteurs. C'est-à-dire que nous avons en naissant la possibilité de croire très facilement, parce que la croyance, il y a 2 millions d'années, était un avantage dans les tribus dans lesquelles vivaient nos ancêtres, suivre le chaman, croire à ce qu'il vous disait, croire tous la même chose, alors que les autres étaient des barbares, des incrédules, qui croyaient autre chose. C'est aussi inscrit, la croyance, dans le cerveau des gens qui naissent aujourd'hui, puisque nous avons le même cerveau que Cro-Magnon, hein, il n'a pas beaucoup changé. Le gros problème pour l'homme, c'est que l'évolution de sa technologie se fait de façon exponentielle, alors que l'évolution de ses facultés, de ses possibilités d'apprendre, de ses possibilités de croire, se font à un rythme biologique. Et je crois que le gros problème viendra de là, pour passer d'un mode de pensée théologique à un mode de pensée biologique. Et puis je voudrais, pour conclure ça, dire quelque chose à propos, une petite anecdote à propos de ce que vous avez dit de l'écologie politique. Je voulais dire qu'au mois de mai, Pierre Draghi et Hulot ont fait une conférence à Morlaix qui a rassemblé près de 3000 personnes dans deux salles différentes, et que la semaine suivante, les Verts tenaient un congrès à Lyon où se sont réunis 60 personnes.
Enfin, ce que vous dites me paraît très juste. C'est pour ça que dans l'exposé, j'ai quand même essayé de relier aussi l'évolution de la pensée à l'évolution biologique du processus de la vie. Je crois qu'on est, nos scientifiques nous ont habitués, si vous voulez, au processus biologique, à l'évolution biologique de l'homme, l'homo erectus, l'homo, etc., l'homo sapiens, etc., et nous se sont absolument détournés de la pensée pour la seule raison que chez eux, on veut imposer une pensée universelle en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Je crois que nous quittons ce mode linéaire de la pensée qui est hermétiquement clos. Et qu'effectivement, tout ce qui peut apparaître comme différent est voué au bûcher. Je crois que c'est Borno, qui est le premier, je crois, en Italie, c'est ça en Italie, avait dit que c'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, c'était la Terre qui tournait autour du soleil, avant Galilée. Et il n'a jamais voulu abjurer, et il a été brûlé en place de grève. Je crois que Galilée, j'ai lu sa biographie, lui, il a abjuré sans abjurer, heureusement qu'il avait le duc de, je ne sais plus trop quoi, si c'est le duc de Ferrare ou un autre, qui l'a pris sous sa protection, mais il ne devait communiquer avec aucun autre scientifique. Je crois que c'est Copernic qui a attendu d'avoir 70 ans pour faire paraître son petit opuscule, c'est-à-dire l'année de sa mort. Donc je crois que nous sortons peut-être, je dis peut-être, parce qu'avec l'islamisme intégriste actuel, il apparaît, les mécréants, etc., ils sont dans un globe et voudraient-ils nous imposer aussi, il y en a d'autres, sûrement d'autres intégristes. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'est à moi. Je voulais dire que j'ai bien aimé votre analyse du mouvement écologiste comme étant très majoritairement concerné non pas par les intérêts des êtres vivants, en particulier, mais par les intérêts des hommes qui les regardent. Et que je pense que c'est effectivement une position assez minoritaire dans le mouvement écologiste que tenir ces propos. Moi, j'avais une question sur par rapport à la position du CDN, sur le fait que je suppose que l'idée de tuer les animaux inutilement, sans nécessité, est quelque chose, c'est une question que je vous pose, mais qui est réprouvée par le CDN. Je dis que c'est cohérent avec la position de placer la vie et l'espoir dans quelque chose de crucial. Et je voulais savoir quelle est la position du CDN par rapport au fait de manger les animaux. Qui est, selon moi, quelque chose de, sans nécessité aujourd'hui, reconnu plus en plus largement. Manger les animaux qui imposent le fait de les tuer,
voilà.
Évidemment, ça arrête de soi, mais
c'est bon. Alors, c'est une. Je sais qu'au sein de la Convention Vie et Nature pour une écologie radicale, il y a de nombreuses personnes qui sont ou végétariennes ou végétaliennes. Je sais que j'ai bonne communication avec une personne qui se nomme Odette. Et alors, moi je vous avoue, je consomme encore de l'alimentation carnée, mais cette personne-là, je n'en parle pas parce qu'elle sait à chaque fois que on s'aime bien, tous les deux, si vous voulez, mais il ne faut surtout pas aborder ce sujet-là, parce que sur ses messages internet, elle fait joindre ses affirmations d'une dizaine, d'une quinzaine, parfois j'ai compté jusqu'à 23 points d'exclamation. Donc c'est un domaine, si vous voulez. Donc au sein de la CVN actuellement, je commence quand même à connaître à peu près la moitié des gens. Je pense que la diminution de la consommation carnée est à l'ordre du jour.
Je vous ai posé cette question en particulier parce que j'avais du côté une possibilité d'une campagne pour demander l'abolition du meurtre des animaux sans nécessité. Et du coup, la notion de biocentrisme m'intéresse, premier chef, avec tout ce qui relève du respect du vivant de dire qu'il faut donc en particulier pas tuer les individus vivants sans raison forte de le faire, devrait amener à notre position, pour moi, sur le fait de consommer les animaux, donc de les tuer pour ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une faiblesse très grande du coup de la position biocentriste, non végétariste. J'ai l'impression qu'on doit sans arrêt vous poser cette question, enfin du moins pour ceux qui se posent la question du végétarisme.
Oui, c'est vrai, mais vous savez, au sein de la CVN, hein, puisque j'y suis depuis l'origine, le terme biocentrisme n'est apparu qu'il y a un an. Hein, elle a trois ans d'existence. Donc, avant, on était pour une réforme des conditions de pratique de la chasse. Depuis le novembre dernier, nous avons opté pour l'expression « abolition immédiate de la chasse ». Alors, je pense que c'est un mouvement en devenir, hein, mais à chaque fois, si vous voulez, que nous affirmons des idées fortes, il y a 10 personnes qui nous quittent et 10 personnes qui arrivent, quoi. Parce que tant qu'une association est floue dans ses objectifs, si vous voulez, hein, là, je vous ai mis un passage de la charte qui est un des plus clairs. Hein. Mais maintenant, si vous allez sur le site de la CVN, l'abolition de la chasse, c'est clair. Hein, elle fait l'objet d'un texte. Ça, au moins, c'est clair, on sait où on va. Bon, il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'eux étaient pour une réglementation. Il n'était pas pour une mesure brutale, mais pour une réglementation progressive qui conduirait. Bon, moi je sais que les chasseurs vont disparaître dans une décennie et deux décennies, mais c'est non, parce que la PAC européenne risquerait de les remettre en... Mais enfin, les agriculteurs disparaissant, les haies disparaissant, la structure biologique prenant de plus en plus d'importance, on ne va pas chasser c'est dans une structure biologique. Hein, d'agriculture biologique. Par conséquent, l'espace terrestre des chasseurs va se restreindre, à mon avis, considérablement. L'année prochaine, on va leur imposer de chasser non plus avec du plomb, mais avec de la mitraille, c'est ça. Enfin, il faudra changer de fusil, parce qu'on ne peut pas adapter, c'est comme un moteur de voiture, on ne peut pas adapter le fusil du plomb à la mitraille. Donc, apparemment, un certain nombre de chasseurs vont remettre le fusil au clou, si vous voulez. Hein. Mais je sais qu'avec le ROC, par exemple, il y a eu les discussions entre la CVN et l'Europe, parce qu'apparemment l'Europe aurait participé avec les chasseurs. Ce sont des sujets sensibles, si vous voulez. Moi, ce que je peux dire au sujet de la chasse, c'est que la CVN a pris une position forte. Au sujet de l'alimentation carnée ou non carnée, de nombreux participants, de nombreux adhérents de la CVN sont pour. Maintenant, la CVN n'a pas pris une décision catégorique, ferme à ce sujet-là. Mais vraisemblablement, si elle apprendra un jour, et elle apprendra, il y aura un certain nombre de personnes à nous quitter et d'autres qui viendront. Et il y a des personnes qui ne viennent pas, justement, parce que on n'a pas pris une position sur... Mais en gros, je voulais revenir à vous, il y a un terme qui me paraît très fort pour la CVN et pour les biocentristes, c'est la non-discrimination. Et ça aussi, c'est une valeur montante qui est développée actuellement, mais de façon très réductrice pour les ethnies, par exemple. Hein, la discrimination positive, on parle de tout ça. Nous, à la CVN, c'est clair et c'est net, ça s'est affirmé, nous sommes contre toute discrimination. Hein. C'est bien précisé dans nos textes, c'est-à-dire le droit au respect d'autrui ne tient ni au sexe, ni à l'espèce, ni à la race, ni à l'ethnie, ni à la religion. Hein. C'est, pour nous, ça, c'est catégorique également.
Il y avait lui qui avait demandé pour une intervention. On peut peut-être faire la pause après. Ça peut aller avec la pause cigarette dont Guy avait parlé. Et ensuite, on voit si on peut venir en un groupe ou si on fait un petit groupe de discussion sur ce sujet du biocentrisme.
Je relève juste deux petits trucs dans le propos. Là, juste ce que vous venez de dire à l'instant, apparemment, ça me paraît clair que si les gens du CVN sont dans cet état d'esprit-là, rapidement, ils vont en arriver au végétarisme. Parce que s'ils sont contre toute discrimination, ils arriveront vite à des contradictions s'ils n'interdisent pas de tuer des animaux pour les consommer. Bon, là, c'est peut-être juste une question de temps et d'habitude à l'idée, donc ça me paraît plutôt rassurant. Mais juste, même si ça n'a rien à voir avec notre débat, j'étais un peu gêné par la partie sur l'islam fondamentaliste ou je sais pas quoi, ou les actions. Juste un tout petit truc, c'est moi, par rapport à des processus historique. Après, on ne peut jamais être sûr de ce qu'on affirme quand on fait de la projection. Le fait que des attentats violents par des organismes non étatiques, c'est plutôt une marque qu'ils sont perdus, quoi.
Oui, alors tout à fait.
C'est pas une marque d'un retour de la preuve, quoi que ce soit.
Alors là, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une notion, mais on ne peut pas tout aborder. Hein, ça, voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que tout le linéaire est un processus mental qui est la charpente de la pensée linéaire, et c'est le dualisme. Hein? C'est-à-dire qu'on se pose en s'opposant, combien de fois n'a-t-on pas entendu cet adage, hein? Et donc, si vous voulez, les pouvoirs théocratiques se sont opposés, hein, au pouvoir de la pensée cyclique, hein? Et ce sont eux, c'est en s'opposant, ils ont commencé à créer des empires. L'empire n'apparaît qu'avec la pensée théocratique ou humaniste. Hein, je regrette, mais l'humanisme, il a créé les empires coloniaux. C'est la dernière marque, si vous voulez, de la création d'empires, c'est l'empire colonial. Et à mon avis, c'est là où ça s'est effondré. Et deux mots encore pour l'islamisme. Mahomet, alors, Jésus-Christ n'a rien écrit. Hein? Il ne faisait que la parole, d'ailleurs, c'est le mot parole qui revient constamment. Il n'a rien écrit. Ce sont les apôtres qui ont écrit pour lui. Et d'ailleurs, il s'adressait à des foules qui étaient complètement ignorantes, donc on n'aurait pas compris. 7 siècles plus tard, donc il y a eu quand même une évolution au niveau de l'écriture. Eh bien, Mahomet, lui non plus, n'a rien écrit. Ce sont ses proches, hein, qui ont transcrit en somme les paroles qu'il entendait. Autrement dit, si vous voulez, on a, à mon avis, dans la fin d'un mode de pensée, comme dans la fin d'une civilisation, comme dans la fin de toute existence, il y a un moment où le dualisme, là, se radicalise, et selon moi, c'est pour ça que je suis optimiste, on est dans une phase d'ultra-radicalisation du dualisme, qui ne saurait durer effectivement bien longtemps. Non, je pense que, en voyant ça, bien sûr, mais il y a aussi 5000 morts sur les routes, hein, bon, faut comprendre. Mais je suis... Alors là, tout à fait d'accord avec vous. Ah, je suis passionné, hein, bon. J'ai, toute ma vie, j'ai été passionné. J'ai 66 ans, je pense pas que c'est maintenant que je changerai. Alors, les petits livres que j'ai mis en circulation, là, avec le titre étant biologique, je les donne à l'association des estivales. S'il y a des gens qui les souhaitent, on met ça à 5 euros, c'est à peu près le prix que ça me revient. Hein? Pour, mais, pas pour moi, hein, pour les estivales.
On vous reprend tout à l'heure.
Oui.
On va aller chez
vous. Ben bien sûr. Hein? Donc, on se dit pas au revoir. Hein?
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Oui, ouais, bien sûr.
D'accord. C'était très très intéressant. Très très intéressant. Moi, j'aimerais bien le texte. Vous l'avez, le texte de votre
Oui. Je vais le. Allez, j'ai manuscrit. Parce que ça fait un an que je travaille dessus.
Ah, d'accord, parce que c'est intéressant.
Et alors, même au dernier moment, il m'est arrivé de rassurer.
J'ai été heureuse que vous parliez de ce niveau.
Je peux les donner à vous
Non, parce que moi, je ne fais pas partie des estivales.
Alors, je donne à la trésorière.
Oui, voilà.
Voilà,
voilà,
d'accord.
Oui,
mais j'en dirai. Hein.
Du fait que j'ai eu dans le temps une adresse électronique, je pense que je n'ai pas eu les productions de la CBN depuis le dernier AG. Quoi. Alors, si je pouvais savoir.
Oui, je vais les envoyer. Hein.
Bien sûr.
Sympa.
Merci.
Non, c'est... Vous savez, pour moi, c'est tout ce qui peut faire progresser.
En tout cas, j'étais contente que vous parliez de Sonigo. Parce qu'en fait, Sonigo, moi, j'ai adoré dans son bouquin, quand il parle du corps comme écosystème.
Ah oui,
ça, c'est extraordinaire. Mais c'est un type extraordinaire.
Oui, moi, c'est celui, je l'ai entendu parler à la télé une fois, j'ai bondi de ma chaise et j'ai applaudi.
Nous aussi. Oh, c'est incroyable, nous aussi. Oui, il y a une émission littéraire.
Oui, voilà. J'ai bondi de ma chaise. Alors, j'ai ces bouquins, hein. Je pourrais vous les envoyer si vous
souhaitez. Ah,
mais je les ai. Oui,
je les ai même fait acheter à la bibliothèque de l'Ardèche, au Bibliobus.
Ah oui. Oui, à tout à l'heure, oui.
L'être humain n'est pas très flexible de la cervelle. Il faut que ça biosensible.
Non, 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 les biosensibles étaient ouverts.
C'est un scientifique, c'est un scientifique.
Oui, le monde est réel.
Le monde, j'ai dit ça en disant que les mondes, effectivement.
Ah, ils sont hermétiquement clos.
Ils sont complètement clos. Voilà. C'est pour ça que moi, je
maintiens. Le biosensible est un mode ouvert. Parce qu'on n'a pas le temps de tout développer. Il n'y en a pas tout évolué. Tandis que le mode de pensée, par exemple, entre l'anthropocentrisme et l'humanisme, c'est propositionnel. On chante. J'ai employé plusieurs fois le terme enchevêtrement.
Et l'école ? L'école, monsieur, qui est professeur ?
Oui,
l'école. Ben vous n'êtes pas dépoisonné, hein ?
Prenez le Big Bang, et dites. Le Big Bang, c'est une notion inventée par l'enfant.
Alors, justement,
je suis pas
le chien, mais je sais pas pourquoi. Oui, pas le canot, le chien. Je pense que le temps était séparé avec l'espace.
parce que. Ben, écoute, on a très bien vu hier ce qui s'est passé. Il y a un gamin là. Le gamin qui s'est rendu. Le gamin n'a pas le
ventre. Oui. Il n'y a aucune crédibilité. De plus en plus, il n'y aura pas de crédibilité. Mais non, parce que le problème, la création des univers n'est pas un problème.
Donc,
c'était dans l'univers. C'est dans l'univers. Elle commence quelque part. C'est même le physique que
j'ai
d'appris. Oui, on est emprisonné dans un mode de pensée. C'est autre chose. Pour moi, par exemple, c'est l'interaction. Quelle est l'essence de l'existence et de la vie du vivant ? C'est la processus interactif. Voilà la moindre interaction et la voilà. Donc c'est bien biocentrique. Allez, quand vous parlez du biocentrique, vous évoquez automatiquement le principe du biocentrique.
À
part des gens qui, par exemple ma femme, on ne partage pas les mêmes opinions, c'est formidable. Comme ça on peut. Ah non, non, parce qu'on respecte, on respecte l'autre. Même
représentation.
Elle reconnaît qu'effectivement, le principe de causalité linéaire est devenu
observé.
Le principe homéopathique, par exemple, c'est un principe interactif. Tandis que le remède traditionnel est ciblé pour conduire à une action. Donc l'homéopathie restitue, en somme, le pouvoir d'immunité ou de résistance du corps. Mais par quelle pensée ? Une cellule, par exemple, contient des milliers de protéines. Mais d'abord, on arrivera peut-être un jour à les déterminer. Mais les interactions entre ces différentes protéines, c'est pour ça que je parlais de monde totalement inconnu. Avant, si vous voulez, on croyait que c'était l'atome, on voulait mesurer l'atome, c'était la dernière chose que l'on puisse voir de façon concrète.
C'est sûr, montrer à tout le monde, essayer de baser toujours sur cette chose-là que vous venez de découvrir, voir s'il y a des nouveaux trucs, c'est une réaction.
C'est pour ça que l'être humain occupe dans le monde de l'image une place humaine. C'est qu'apparemment, c'est la notion de temps dans les animaux aussi, c'est pas la notion de temps, mais la prévision du temps. Par exemple, les pies, les corbeaux, ils mettent des noix, ils cachent des noix, etc. En prévision, sur la période, ils ce qui ne présage pas leur possibilité de retrouver ce qu'ils ont caché. Tandis que l'être humain, lui, peut-être qu'au départ, alors, l'être humain n'avait pas la notion de temps. Peut-être qu'il agissait de façon. Et puis après, il s'est dit, il s'est inscrit dans un concept temporaire. Oui, à partir du moment où l'agriculture est venue augmenter le groupe. À partir du moment où le groupe devenait trop important, il a fallu établir une hiérarchie. Comme on dit quand on veut dire que la hiérarchie est un phénomène naturel qu'on voit chez les animaux, c'est absolument pas vrai. Pour moi, c'est absolument faux. La hiérarchie prétendue chez les animaux n'est que la défense et la régénération de la qualité des individus. Ça n'a rien à voir avec la hiérarchie.
Il y a beaucoup de chiffres.
Quand on parle de l'univers, de la cause animale, il est arrivé justement que chez les animaux, pour avoir de beaux éléments, il fallait que ce soit le plus fort. Donc, il a marié des jeunes Ariens, grands, blonds et costauds, avec des grandes jeunes filles, etc.
Oui, vous êtes coupés.
Voilà. Vous
avez des femmes, vous voyez des femmes juives, blondes, aux yeux bleus, allemandes. En fait, non, je suis même pas sûr que c'est juste là. En fait, en vous donnant, on voyait, ils faisaient des coups, des blondes, des femmes, des femmes, des femmes, des hommes, des femmes, des hommes, des femmes, des
voilà, des femmes, des femmes. Pour procréer une génération d'individus plus forts, les plus beaux. On a expliqué la petite histoire de Bernard Shaw avec une actrice célèbre qui est une véritable mannequin, la BBC, non ? Bernard Shaw, humoriste là, anglais, oui, un humoriste anglais, très 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 jeune étudiant. Et alors il y a une jeune actrice. Bien modelé, une fois qu'il avait que le modelage pour toute vertu, et qui dit à Bernard Shaw, ah, si vous m'épousiez, quelle qualité auraient nos enfants ?
L'intelligence, mais
est-ce qu'on physique ? Oui, et Bernard Shaw lui dit, oui, imaginez, quelle est votre intelligence et votre physique ?
C'est
ça, pas être l'ennemi du bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de mieux, il faut s'en réjouir. Et ne pas dire vouloir une politique catastrophique pour passer justement du mal au bien. Il faut un équilibre. Donc, dans la pensée dualiste, si vous voulez, la pensée dualiste est une pensée linéaire, théocratique, si vous voulez, ou anthropocentrique, qui voit le vrai, le faux, le bien, le mal, le pour, le contre, le laid, le bon, enfin, qui construit un univers
dans les opposés.
Voilà.
Moi aussi, c'est ce que je conçois. Imaginez que justement le mal n'existe pas dans la perception du bien. Imaginez que ces gens n'existent pas. Ces gens, ça se trouve, pas déjà. Si on était dans un monde sans concurrence, parce qu'on n'aurait rien qui motiverait. On a besoin de motivation et parfois le fait de subir le mal, ça fait qu'on se rend compte des choses. Enfin, je sais pas. dimension, s'il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mal.
Non, c'est ça. Il y a autre chose. C'est ça. C'est qu'il y a autre chose.
Non, c'est pas pour l'instant possible. Pour l'instant, parce que...
Oui, voilà.
Tout à fait. Et moi, je suis personnellement content d'avoir cette émotion-là.
Bien sûr.
Après, ben, j'accepte. Oui, qu'il y a autre chose. Mais
c'est non, c'est pas rien du tout, si vous voulez. C'est une structure mentale qui est là depuis 10 000 ans. Et c'est faire semblant du jour au lendemain. Mais disons qu'il y a une autre structure mentale possible. Le coévolutif, c'est le principe de coévolution. Alors, j'ai pas tout cité là.
C'est plus, non, mais si je veux dire, c'est plus possible pour s'en y refaire parce que là, justement, on a notre évolution et on doit évoluer avec ce qu'on a déjà eu.
Voilà, et on ne peut évoluer qu'en fonction
de ce que l'on a. Boulet.
On ne peut pas évoluer de façon dirigiste comme ça. On est obligé d'évoluer en fonction. L'interaction, c'est ça.
Ouais.
Et le présent n'existe pas. Puisque le présent, c'est s'arrêter sur une interaction qui a déjà continué du moment.
On a fait que passer le futur. Donc c'est le présent, dans un temps, il est impossible de déterminer.
Voilà. Alors, je veux dire que c'est très factuel, bien entendu. Le présent, là, je vis l'instant présent avec vous.
Voilà. Donc, en fait, on vit toujours dans le présent, mais en même temps,
il est déjà
dans
passé.
Le futur. Le
fait de le dire. Le fait de le dire, hein, je.
Ouais.
Sauf un présent progressif, comme les Anglais ont, par exemple. Je marche. Donc là, ils ont un présent qui dure longtemps.
Je marche mal foutu, mais je marche. Ouais, c'est
Je vous dis.
Des fois, tu te dis que tu as envie d'être un autre animal, tranquille, tu fais ta vie, t'en fous.
Parce que là, il faut se lever à telle heure, il faut manger, il faut bien sonner la table.
Bah, j'aurais bien voulu de dire non, mais le problème, c'est le lion, comme il finit à la fin, c'est pas très bien non plus.
Qu'est-ce que vous faites avec Judith?
Est-ce qu'on continue une discussion en groupe restreint sur les sujets de santé, par exemple?
Parce que ma famille et moi, on s'occupe de nos petits-enfants à Paris.
Donc on a loué un petit studio à 30 mètres de l'école du Mans. On les a fait le midi, on prépare le repas le soir pour eux et pour leurs parents. Donc je vis une partie à Paris. Oh, ils sont très éparpillés, on est sur 13 régions. Mais avec un élément, donc par exemple on est 6 sur Paris. Mais avec des gens. Enfin, pour moi, la CBN, c'est pas vrai vivre. Hein.
Si les questions ressortent,
une personne, Emmanuel Varenne, qui retransmet, on envoie nos articles, si vous voulez, à Emmanuel Varenne, qui ne se passe pas sur la mission. Et bon, je vais proposer de participer, on va élaborer un petit peu plus pour une raison. Elle s'intéresse à la défense de l'État et comme ça, elle défend les causes des particuliers. Donc elle ne veut pas s'inscrire dans le cadre de promotion régionale ou d'être une antenne régionale, par exemple, ça l'intéresse pas. Mais elle est très 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 dévouée. Mais c'est intéressant. Ça a beaucoup de temps pour défendre.
Oui, on peut commencer par la façon de
Oui, en fait, j'ai même pas encore été là, mais quand on discute aussi là-bas,
je vais pas pouvoir avec nos pieds à la
fin. On va aller déjeuner pour vous. Oui. On peut laisser ça là, peut-être, hein.
Oui, il n'y a rien de valeur, parce que c'est pas...
J'ai
dit, il y a une preuve, disons.
Ah, puis il y a mon touch. Oh là, il y a mon touch.
Ah, alors ça, c'est.
J'ai dit.
Ah non.
Je crois.
Oui, apparemment.
Ah oui.
Mon estomac, on me dit.
Voilà.
Voilà. Et l'horloge biologique. Lui, on peut pas. Donc,
l'horreur
est une
mentalité.
Et
François, je te dis combien de temps je suis devant.